Vous écoutez, on lit pour vous.
Les aînés prendraient encore trop de médicaments potentiellement inappropriés. Un texte de Jean-Benoît Legault de la Presse canadienne, paru le 10 septembre 2024 dans la presse. Les personnes âgées prennent encore trop de médicaments potentiellement inappropriés, conclut une nouvelle étude pilotée par une chercheuse de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Il s'agit de médicaments dont les inconvénients peuvent dépasser les avantages, qui peuvent être inefficaces ou pour lesquels il existe une alternative plus sécuritaire. Bien que les dépenses en médicaments potentiellement inappropriés, ou MPI, aient diminué au Canada, le coût global reste élevé, écrivent ainsi les auteurs de l'étude. La prescription de certaines classes de MPI gravement nocifs a augmenté et des interventions ciblées et évolutives sont donc nécessaires. La docteure Emily MacDonald et ses collaborateurs ont constaté que, malgré certaines améliorations depuis 2013, la prescription de médicaments potentiellement inappropriés demeure très courante chez les aînés canadiens. Ce sont ainsi 42 % des personnes âgées de plus de 65 ans au Canada qui auraient pris au moins un MPI en 2021. La situation n'est toutefois pas entièrement négative. Par exemple, si la population âgée de 65 ans et plus a augmenté de 32 % entre 2013 et 2021 au Canada, les dépenses totales en MPI pour les aînés ont reculé de 33,6 %. Les dépenses trimestrielles par personne âgée exposée ont aussi diminué de 95 $ à 57 $. Les dépenses totales pour les MPI ont diminué dans toutes les catégories entre 2013 et 2021, à l'exception des gabapentinoïdes, un bond de 36,4 %, et des antipsychotiques, une hausse de 7,2 %. Les auteurs précisent toutefois que la diminution du prix de nombreux médicaments, plutôt qu'un déclin du nombre d'ordonnances, est à l'origine de la majeure partie des économies. L'exemple des gabapentinoïdes illustre bien la situation. Ces agents anticonvulsivants sont couramment utilisés pour traiter les douleurs neuropathiques. Malgré un risque accru d'effets indésirables et même de décès, en particulier lorsque pris en association avec des opioïdes, les gabapentinoïdes figurent parmi les 10 médicaments les plus prescrits en Amérique du Nord et seraient prescrits de manière inappropriée dans 83 % des cas. L'emploi non conforme des gabapentinoïdes est de plus en plus reconnu comme un problème majeur en Amérique du Nord et l'escalade des tendances en matière de mésusage et d'abus contribue à des préjudices, préviennent ainsi les auteurs. On a essayé cette classe de médicaments pour traiter différents types de douleurs, mais les études montrent que ça ne fonctionne pas très bien et même que ça augmente beaucoup le risque de complications et d'effets secondaires, a dit la docteure MacDonald. La prescription de MPI découle en partie du manque d'options pharmaceutiques pour certaines conditions, mais aussi de l'accès, parfois difficile ou coûteux, aux options non pharmaceutiques comme les services d'un physiothérapeute, a-t-elle ajouté. De plus, pour un médecin qui n'a que quelques minutes à consacrer au patient, il pourra être plus rapide d'écrire une prescription que de prendre le temps d'expliquer que le médicament n'est pas approprié et pourrait causer des effets secondaires, a admis la docteure MacDonald. C'est un problème très complexe, a-t-elle dit. Au-delà du seul coût financier des prescriptions, l'utilisation de ces médicaments comporte donc un risque excessif d'événements indésirables tels que des chutes, des fractures, des troubles cognitifs et le décès. Leur utilisation crée donc une pression sur le système de santé en contribuant à l'augmentation des visites aux urgences et des hospitalisations. Les calculs des auteurs découlent de données provenant du Système national d'information sur l'utilisation des médicaments prescrits. Ils ont aussi utilisé l'indice des prix à la consommation de Statistique Canada pour tenir compte de l'inflation entre 2013 et 2021. Les conclusions de cette étude ont été publiées par le Journal of the American Geriatrics Society. C'était « Les aînés prendraient encore trop de médicaments potentiellement inappropriés », un texte de Jean-Benoît Legault de la Presse canadienne, paru le 10 septembre 2024 dans La Presse.
Le séminaire de Québec se défend de sacrifier à un parc éolien le joyau caché de Charlevoix, un texte de Sébastien Tanguay, paru le 23 août 2024 dans Le Devoir. Le séminaire de Québec, propriétaire de la seigneurie de Beaupré, où le controversé parc éolien des Neiges doit pousser en 2026-2027, se défend de vouloir sacrifier un des plus beaux paysages de Charlevoix sur l'autel de l'énergie. Dans une lettre d'opinion envoyée au Devoir, le géographe et consultant en aménagement du territoire Anthony Barbe nous fait entrevoir, à l'aide de photos, ce joyau spectaculaire et caché, niché dans Charlevoix, à l'endroit même où Hydro-Québec, Énergie Reboralex, souhaite faire girer entre 60 et 80 éoliennes. Cette vallée glaciaire où la rivière Sainte-Anne creuse son sillon entre le lac de la Tour et le fleuve n'est pas une vallée comme les autres, c'est une des plus belles du Québec, selon l'auteur de la lettre. Il n'y a pourtant presque personne pour l'admirer, puisque l'accès au public y est interdit, hormis pour les travailleurs forestiers et les villégiateurs occasionnels qui fréquentent un des 201 clubs de chasse et pêche de la Seigneurie. C'est au sommet des montagnes charlevoisiennes qu'Hydro-Québec et ses partenaires souhaitent planter des éoliennes, sacrifiant ainsi non seulement un paysage d'exception, selon Anthony Barbe, mais aussi l'habitat de deux espèces menacées, le caribou et la grive de Bicknell. D'où l'importance, écrit-il en référence aux photos prises sur place, de publier ces images pour que les gens du Québec puissent bien mesurer l'ampleur de ce que certains sont prêts à sacrifier au nom de la production énergétique. On force un peu la note. Le parc éolien des Neiges doit se décliner en trois phases de 60 à 80 éoliennes chacune et s'étendre du territoire du lac Jacques-Cartier à l'ouest jusqu'à la MRC de Charlevoix à l'est. Sa capacité totale, à terme, doit approcher les 1200 MW. La réalisation du secteur Charlevoix coûterait $1 milliard, selon l'estimation comprise dans l'étude d'impact environnemental présentée au ministère de l'Environnement en 2022 et ajouterait 70 éoliennes dans le bassin versant primaire de la rivière Sainte-Anne. Le déboisement prévu dans cette même zone s'élèverait à 418 hectares. Le séminaire de Québec a autorisé en 2005 les premières éoliennes dans sa seigneurie. Les revenus tirés de la location de son territoire ont permis de renflouer ses coffres et d'assurer la pérennité de sa mission et de son œuvre, explique l'abbé Gilles Routier, supérieur général du séminaire. Nous avons plusieurs édifices patrimoniaux au centre-ville de Québec, et la loi exige des inspections et la réfection de la maçonnerie tous les 5 ou 10 ans. Sans les revenus tirés de la seigneurie, souligne l'abbé, nous ne pourrions tout simplement pas conserver ces édifices. Le séminaire explique avoir exploré par le passé l'idée de vouer une partie de sa seigneurie, grande d'environ 1600 km², à un usage récréo-touristique. Le fardeau, cependant, se révélait trop lourd à porter pour cette organisation consacrée, notamment, à la formation des futurs prêtres. Nous avons assez sommairement examiné une vocation récréotouristique. Nous avons même consulté à ce sujet-là, mais on nous a déconseillé de le faire, indique l'abbé, parce que la gestion s'avérait beaucoup plus compliquée. Quant à la valeur paysagère de la vallée de la rivière Sainte-Anne, que la MRC de Charlevoix compare en beauté aux hautes gorges de la rivière Malbaie, dans son schéma d'aménagement, le supérieur général exprime des doutes. Pour connaître la vallée des hautes gorges de la rivière Malbaie, je crois qu'on force un peu la note si on compare les deux choses. Aussi contesté à Beaupré, le Bureau d'audience publique en environnement, BAP, a étudié une deuxième phase du Parc des Neiges, située dans la MRC de la côte de Beaupré, à proximité du Mont-Sainte-Anne. Dans son rapport publié en juin 2024, la commission d'enquête estimait le projet justifié car il s'inscrit dans la perspective de la transition énergétique et de la décarbonation de l'économie. Elle rappelait, du même souffle, l'importance de préserver les paysages, puisque les éoliennes prévues par l'initiateur seraient visibles à partir du sommet du mont. Le BAP recommandait au ministère d'obliger l'initiateur à consulter notamment les citoyens du milieu d'accueil, surtout à propos des 17 éoliennes plantées en périphérie du Mont-Sainte-Anne. Sur ce point, Gilles Routier s'inscrit en faux. « Moi, je suis persuadé qu'un remonte-pente de ski au Mont-Sainte-Anne, ça brise plus le paysage et la montagne qu'une éolienne. » Il y a aussi un parc éolien au massif du Sud. Là-bas, ils ont fait une piste pour s'en approcher et les voir. C'est la piste la plus fréquentée. Si on voulait garder le paysage tel qu'il était il y a 400 ans, conclut-il, on arrêterait bien des choses. C'était le séminaire de Québec se défend de sacrifier à un parc éolien le joyau caché de Charlevoix. Un texte de Sébastien Tanguay, paru le 23 août 2024 dans Le Devoir.
Jean-Michel Fortier rentabilise sa passion pour Céline Dion. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 3 septembre 2024 dans le magazine Fugue. À 16 ans, Colin Bourque a deux secrets, son homosexualité et sa passion pour Céline Dion. À quelques mois de la fin du secondaire, ce garçon, pas comme les autres, voit sa vie basculer lorsqu'il croise un cégepien au corps de nageur. Son histoire est un clin d'œil assumé au succès Heartstopper qui a inspiré l'écrivain Jean-Michel Fortier, fan fini de Céline, dans l'écriture du roman pour ados et pour adultes, Tout me revient maintenant. Comment est apparue l'envie d'écrire un personnage adolescent? Jean-Michel Fortier. Je me demandais comment atteindre un public plus large que d'habitude. C'est la première chose qui a motivé mon écriture. Ensuite, je me suis demandé ce qu'il y avait dans mon expérience d'unique à raconter. Je suis une personne queer. Je viens de Québec et j'aime Céline Dion. Il y a plein de gens comme moi, mais j'ai la chance d'être capable d'écrire et d'avoir une plateforme. Mon personnage sent que son homosexualité et son amour pour Céline sont liés d'une certaine façon et qu'elles sont également honteuses. Je m'identifiais totalement à ça durant mon adolescence. Selon Colin, les garçons normaux n'aiment pas Céline Dion. À quel point sa situation peut-elle faire écho à plusieurs personnes qui cachent leur goût par peur de ce que cela dit sur elle? Quand tu es ado et queer, tu as l'impression que tout peut te révéler. Ta voix, ton rire, ta démarche, tes gestes, tes vêtements, tes intérêts, tes envies, tes amis et tes goûts musicaux. Colin croit que c'est anormal d'aimer Céline à 16 ans, en 2003, alors que ses amis ont des goûts musicaux complètement différents. Il se sent comme une vieille madame. Je pense que plusieurs personnes vivent des choses comme ça dans la façon dont elles se présentent au monde. On a souvent peur qu'un indice révèle notre secret. Décris-nous ton amour pour Céline. À 16 ans, c'était de shit. Il n'y avait rien de mieux pour moi. Je crois qu'elle va faire partie de mon univers jusqu'à la fin de ma vie. Il ne passe pas une journée sans que j'écoute une de ses chansons. C'est tellement une habitude pour moi. 20 ans plus tard, j'ai élargi mon univers musical, mais toute cette connaissance-là m'est restée. Je n'ai pas fait de recherche pour parler d'elle dans le roman. J'ai lu toutes les biographies sur elle, tous les articles de magazines et j'ai tous ses albums. Je suis pas mal expert. On fait l'entrevue 10 jours après la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Qu'as-tu pensé de sa prestation? Ce moment a rallié tout le monde. Il faut dire que la trame narrative avait été bien installée. Le documentaire avait été mis en ligne 1 mois plus tôt. On l'a vu dans un état lamentable. Bien sûr, le docu avait été fait il y a un bout, alors elle a eu le temps de se remettre un peu. Au final, sa prestation a été super belle visuellement et musicalement. Le fait que tout ça avait été si bien orchestré faisait en sorte que tout le monde semblait avoir un amour inconditionnel pour Céline. Colin cache aussi son homosexualité. À quel point l'époque, 2003, influence-t-elle son choix? En 2024, j'espère que bien des choses ont changé et que ça se passe mieux que dans le roman dans plusieurs écoles secondaires. Pourtant, je suis certain qu'il y a plusieurs endroits où c'est exactement comme dans le livre. Colin ne se fait pas harceler ni intimider, mais il ne se sent pas en sécurité et il a l'impression qu'il doit se retenir. Il sent l'univers hostile à ce qu'il est au fond de lui. Donc, l'époque joue dans sa décision. Le roman est une chronique sur tous les ados pognés du monde. Que voulais-tu exprimer sur eux? Je ne voulais pas que ce soit un livre triomphal. On n'a pas toujours besoin de lire des histoires qui se terminent alors que l'ado surmonte sa timidité ou son traumatisme. Je pense que ça prend beaucoup de temps faire ça, même toute une vie. À la fin du roman, Colin a vécu un sentiment amoureux et plusieurs choses se sont améliorées. Mais il n'y a pas grand-chose de réglé. Je voulais montrer que c'est normal et qu'il n'y a pas de pression d'accomplir ceci à 16 ans et cela à 20 ans. Tu prends le temps d'installer ton personnage, son quotidien et sa famille avant de placer l'élément déclencheur de sa quête amoureuse. Pourquoi ce choix? J'aime beaucoup écrire des chapitres qui, en apparence, ne servent à presque rien. Quand j'écris que Colin attend l'autobus pour aller au travail et que c'est plate à sa job, ça ne fait pas avancer la progression dramatique. Mais je crois au pouvoir de ces chapitres-là pour qu'on s'attache au personnage. Je crois à l'attachement dans la longueur. Colin ne vit pas des aventures rocambolesques, mais on développe une empathie pour lui. Et j'espère qu'on veut le suivre. Ton livre rappelle certains éléments de Heartstopper. Penses-tu que les queers ont besoin d'histoires d'ados pleines de tendresse et positives comme celle-là? Oui. J'ai commencé à lire Heartstopper en 2021, tout juste après avoir commencé l'écriture du livre. Je suis tombée en amour avec le premier tome. Ça m'a tellement émue. Même si l'histoire se déroule à notre époque, il y a quelque chose d'idéalisé là-dedans. Il y a des obstacles, mais ces ados sont tellement bien entourés. Quand je lisais ça, j'avais l'impression de goûter l'histoire d'amour que j'ai toujours voulu avoir au secondaire. Ça m'a beaucoup inspirée. Y a-t-il un plan pour une suite ou même plusieurs tomes? Si je considère que les gens ont embarqué et qu'on a vendu assez d'exemplaires, J'aimerais rester dans cet univers-là. Je pourrais continuer avec Colin à l'université ou plus tard dans sa vie. Ce n'est pas un plan. Je n'ai aucun manuscrit de commencer, mais je ne suis pas fermée à l'idée. C'était Jean-Michel Fortier rentabilise sa passion pour Céline Dion. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 3 septembre 2024 dans le magazine Fugue.
Tintamarre sous l'océan. Un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 3 septembre 2024 dans la presse. Ottawa a dévoilé le 23 août 2024 sa stratégie sur le bruit sous-marin. Qui ne va pas assez loin pour protéger la biodiversité de nos océans, estime le Fonds mondial pour la nature. Car sous l'eau, il n'y a pas que le chant des baleines, mais aussi de plus en plus de bruit provoqué par les activités humaines. Un tintamarre qui peut avoir de sérieuses conséquences pour la faune sous-marine. Du bruit dans les océans? Voilà un sujet dont on n'entend pas souvent parler. Le bruit et la pollution sonore provoquée par des activités humaines dans l'océan, c'est quelque chose de relativement nouveau depuis une centaine d'années, explique Kristen Powell, spécialiste des enjeux de conservation marine au Fonds mondial pour la nature, WWF, au Canada. Comme sur la Terre, les activités humaines se sont multipliées, avec des impacts importants sur les océans. Pour la vaste majorité des espèces océaniques, si on augmente le bruit de fond ambiant, ça va avoir un effet qui peut difficilement être positif, résume Pierre Cauchy, professeur d'acoustique marine à l'Institut des sciences de la mer, ISMER, à Rimouski. Les océans occupent pourtant 70 % de la superficie de notre planète. C'est énorme. Comment le bruit peut-il avoir autant d'impact? Il faut d'abord savoir que les sons se déplacent jusqu'à 5 fois plus rapidement dans l'eau de mer que sur la Terre. Le chant d'une baleine bleue, par exemple, peut être détecté à des centaines de kilomètres de distance dans l'océan. On sait qu'une large majorité des espèces marines utilisent les sons. On sait depuis longtemps que les baleines chantent. Mais au-delà de ça, on sait aussi qu'il y a énormément d'espèces qui ont besoin des sons pour détecter des prédateurs, pour communiquer entre elles de façon moins poétique que les baleines. Il y a plein d'invertébrés, des petits animaux qui font du bruit et qui s'en servent de ces sons, souligne Pierre Cauchy. On peut avoir des exemples plus précis? Pierre Cauchy signale que des chercheurs de l'ISMER, affiliés à l'Université du Québec à Rimouski, travaillent sur les différentes phases de croissance des larves de moules soumises à différents niveaux de bruit. Ils ont démontré que les larves de moules ne se développent pas de la même façon selon qu'il y a du bruit ou non. On peut aussi parler du plancton. L'ambiance acoustique du lieu va leur servir pour décider si c'est un bon endroit pour y rester, ajoute-t-il. C'est sérieux à ce point, l'impact du bruit dans les océans? Des recherches ont démontré que le bruit causé par des opérations d'exploration minière sous-marine dans le nord-est de l'Atlantique a tué plusieurs calmars géants présents dans le secteur. Un phénomène similaire s'est produit en 2017 lorsque des opérations de forage pétrolier ont décimé une population de zooplancton présente au large de l'île de Tasmanie dans le Pacifique. Cette pollution sonore qu'on connaît maintenant peut affecter des fonctions essentielles pour les espèces marines et nuire à leur survie. Cela peut avoir toutes sortes d'impacts, particulièrement pour des espèces en péril, comme les populations d'orques sur la côte ouest ou pour les bélugas dans l'estuaire du Saint-Laurent, mentionne d'ailleurs Kristen Powell. Il y a des bruits dans l'océan qui peuvent soit tuer l'animal, soit le blesser, comme des tests nucléaires, un sonar militaire ou l'exploration minière sous-marine, ajoute Pierre Cauchy. Ce sont des bruits très forts. D'autres bruits moins forts n'ont pas toujours un effet instantané, mais ça finit par avoir un effet cumulatif sur toute une population. Ça fait des animaux qui sont en moins bonne santé. Ça s'ajoute aux autres stress subis par les écosystèmes marins comme la pollution, la surpêche, le réchauffement des océans. Le bruit ambiant devient une autre source de stress. Que fait le Canada face à ce problème? Une consultation publique menée par Pêche et Océans Canada est prévue jusqu'au 22 octobre 2024 à la suite du dévoilement de la stratégie fédérale. La prochaine étape prévoit l'élaboration d'un plan d'action du gouvernement fédéral assorti d'un échéancier. Les recommandations finales et la première ébauche du plan d'action fédéral sur le bruit sous-marin devraient être publiées en 2025. Par la suite, il y aura une consultation et une mobilisation axée sur le plan d'action et sa mise en œuvre, précise le document officiel. Le Canada s'était engagé à publier sa stratégie sur le bruit sous-marin en 2016. Elle devait être dévoilée en 2021, elle a été retardée pendant plusieurs années et elle vient juste d'être rendue publique, affirme Kristen Powell du WWF. Mais nous ne voulons pas seulement une stratégie, mais des mesures concrètes pour réduire la pollution sonore, ajoute-t-elle. Selon Mme Powell, les États-Unis et l'Union européenne ont chacun des plans d'action sur le bruit sous-marin auxquels le Canada fait référence dans sa stratégie. « Nous aurions souhaité plus d'ambition et de clarté, avec des objectifs et des échéanciers précis. Combien de temps allons-nous attendre avant d'agir? À ce stade-ci, c'est un peu comme si on publiait un document parce qu'il faut publier un document », déplore-t-elle. En savoir plus? 1550 mètres par seconde. Dans l'océan, le bruit circule à une vitesse de 1450 à 1550 mètres par seconde, contrairement à 342 mètres par seconde dans l'air. Source Pêche et Océan Canada. 538. Une méta-analyse portant sur 538 études scientifiques publiées en 2021 a confirmé que le bruit provoqué par les activités humaines avait des impacts importants sur les espèces marines. Source, Revue Science. C'était Tintamarre sous l'océan, un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 3 septembre 2024 dans La Presse.